C'est mieux plus haut, ça.
Non, c'est bon, là, c'est bien. J'ai pris quelques notes. On m'avait dit qu'il fallait que je sois succinct, alors j'ai pas tout pris, j'ai juste pris deux, trois petits trucs. Voilà. Comme il fait pas beau aujourd'hui, on a la journée, donc. Vous pouvez pas faire des grillades, vous pouvez pas aller à la piscine. Donc voilà. On est prêt pour les 12 prochaines heures. On va faire un défi, la prédique la plus longue. C'est votre rêve, ça, hein ? Des longues prédiques, des prédiques qui n'en finissent pas, incompréhensibles, théologiques. Ça, c'est votre rêve, hein ? Allez, le pasteur n'est pas là, vous avez le droit de vous lâcher aujourd'hui. Allez-y, dites, exprimez-vous. L'Église est un lieu d'expression. Votre rêve, c'est des prédiques courtes. Hein ? 5 minutes. Ok. C'est bon. Il faut que vous soyez un minimum participatif, parce que moi, je ne vais pas parler comme ça tout le long, parce que moi, mon rêve, c'est de vous entendre. Ce n'est pas que moi, je parle. Moi, je sais déjà ce que je veux dire, donc je n'ai pas de raison de le dire, puisque moi, je le sais. Par contre, j'aimerais savoir ce que vous avez envie de me dire. Le rêve. Vous voulez que je me présente ? Je m'appelle Pierre-Yves Svalen, je suis né sur la Terre. J'essaye d'être aussi terrestre que possible, même si nous sommes appelés à un avenir éternel. J'ai 2 enfants, je suis marié, 2 enfants adultes, un fils qui est dans les étoiles, physicien, astrophysicien, et une fille qui est dans les crèches. Ils font Noël entre les deux, l'étoile et la crèche, voilà. Une femme adorable qui n'est pas là ce matin, on réglera ça une autre fois. Voilà, vous attendez quand même à ce que je sois un tout petit peu sérieux, donc je vais essayer de l'être, pour partager avec vous le rêve. Pourquoi parler de rêve ? Pourquoi pas parler plutôt de projet ? Vous savez, le rêve, ça fait un tout petit peu éthéré, ça fait un tout petit peu pas sérieux, ça fait un petit peu comme tu l'as dit ce matin, hein, la tortue qui rencontre, et puis on est tout nu dans la rue, et on court, et puis on ne trouve pas sa cravate. Ça, j'ai cauchemardé pendant des années, je ne trouvais pas ma cravate. Parce qu'à une certaine époque, pour prêcher, il fallait avoir une cravate. Hein. Si on n'avait pas sa cravate, le message ne passait pas. Je vois que Raymond, lui, est toujours fidèle. Voilà. Moi, je ne trouvais pas ma cravate et j'avais des angoisses. Je me réveillais, j'étais tremble de sueur, je ne trouvais pas ma cravate. Il y a 2 cravates. Je scanne rapidement. 3 cravates. Voilà. Bon cauchemar, mes amis. Moi, j'ai atteint la liberté. Voilà. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est de ça qu'on parle quand on parle du rêve de Dieu ? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que je préfère le mot rêve au mot projet ? Parce que le projet a quelque chose d'assez définitif et contraignant. Voyez-vous, si mon directeur m'appelle dans son bureau et me dit « Pierre-Yves, j'ai des projets pour toi », je dis « Mon Dieu hein ?» ou je dis « Oulala ». Si Dieu me convoque dans son bureau et me dit « Pierre-Yves, j'ai des projets pour toi », c'est un peu du même ordre. C'est contraignant et c'est parfois paralysant. Le rêve est quelque chose qui nous porte. Le rêve est quelque chose qui nous donne envie de partir, envie d'y entrer. Et je crois que les rêves, les projets, voilà, si vous coincez avec le mot rêve, changez-le par projet, ça m'est égal. Mais les rêves, les projets de Dieu sont des rêves heureux. Parce que Dieu veut un bonheur pour nous, il veut que nous soyons bien, il veut que nous soyons heureux, que nous soyons épanouis, il veut que notre vie ait un sens, il veut que notre vie nous fasse passer d'un état à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste. Il a envie de nous prendre avec lui. Il y a quelques années, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai écrit un livre qui s'appelle « 2 ou 3 choses à faire en arrivant au ciel ». Peut-être que quelques-uns l'ont lu, c'est un délire un peu personnel sur le ciel, pas seulement sur la mort, mais sur le ciel. Et j'avais envie dans ce livre, suite à la mort de ma sœur et de ma mère, qui sont mortes à quelques semaines l'une de l'autre, de me dire et de dire aussi aux gens de mon entourage que le rêve de Dieu ne s'arrêtait pas à la mort, mais qu'il y avait quelque chose après, quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire. Alors mon personnage, Arthur, arrive au ciel, il est là, et puis il se réveille, il ne sait pas vraiment qu'on est au ciel. Parce que ça, c'est un truc, vous savez, quand on meurt, on ne sait pas vraiment forcément qu'on est mort. Voilà. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup d'expérience, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, etc. Non. Si vous commencez à contredire tout ce que je pense, ça va, on ne va jamais finir. Donc voilà, je vous dis ça, ok ? Et puis, il arrive au ciel, et là, comme ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'il avait imaginé, il dit à ce personnage qui est vers lui et qui est Dieu, mais il n'est pas très sûr que c'est Dieu, il lui dit, écoute, ce n'est pas du tout comme ça le ciel, tu sais. Ce n'est pas du tout comme ça. Tu te trompes. Le ciel est très très différent de tout ça. Et en écrivant ça, j'avais quand même une ou deux petites pensées derrière nous, derrière la tête, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit savoir et qu'on sait tellement fort qu'on se les impose, qu'on les impose parfois à nos voisins, mais qu'on même parfois à Dieu. Et on lui dit, c'est comme ça que ça se passe, Seigneur. C'est comme ça que tu dois te comporter. C'est ça que tu dois me donner. Voilà la réponse à mon problème. On a le projet, on a le rêve et on l'impose à Dieu. Et alors, Dieu qui n'est pas embêtant, dit à Arthur, je vais t'offrir ton ciel. Et Arthur se retrouve sur un grand canapé rouge, sur un nuage, d'où les petits nuages, comme ça il manque juste le canapé rouge, mais ça, on verra avec Ikea, ils en ont quelques-uns en stock. Et il se retrouve sur ce canapé rouge, et très rapidement, il s'ennuie. Parce qu'il y a une deuxième chose que vous devez savoir, si vous ne l'aviez pas encore découvert, c'est que l'éternité, c'est long. Ça, c'est un concept de base. Hein. L'éternité, c'est assez long. Donc, il est là et il s'ennuie. Et pour finir, il s'ennuie tellement que Dieu vient le rejoindre et lui dit, alors Arthur, voilà, ton ciel, c'est vraiment pas terrible. Maintenant qu'on a vu le tien, si on allait voir le mien. Et je crois que ça, c'est véritablement, quelque part, l'expression même de la vie spirituelle. Vous savez, passer de nos conceptions de la vie religieuse, de nos conceptions de Dieu, de nos conceptions du salut, de la sanctification, de la vie de l'Église, à celle de Dieu. Passer de notre rêve au rêve de Dieu. Parce qu'on a des rêves parfois qui sont un tout petit peu bizarres et parfois assez limités. Il y a quelques semaines, un peu plus, c'était en octobre de l'année dernière, je me retrouvais dans une série de rencontres à Reconvilier. Vous voyez où c'est Reconvilier ? Voilà, hein ? C'est là où habite M. Surchat. Si vous suivez 120 secondes, si vous ne suivez pas 120 secondes, voilà. Et puis, dans cette église, c'était un groupe avec toutes les églises de la région. À un moment donné, j'ai ressenti un appel très profond, une présence très claire du Seigneur, et je me suis adressé directement du haut de la chaire. C'est le privilège quand on est dans ma position, c'est qu'on peut dire des choses, il faut profiter. Et je me suis adressé au conseil d'église qui était là. Je leur ai dit, je crois que le Seigneur vous appelle à m'offrir une Audi A5 intérieur cuir. Alors, il y a eu un instant de stupeur, parce qu'ils ont scanné un petit peu la comptabilité des différentes églises, ils ont réfléchi, et puis je suis rentré à la maison sans avoir reçu mon cadeau, mais il faut toujours du temps, n'est-ce pas, pour les choses. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu mon Audi A5 intérieur cuir. Il faut toujours avoir la foi dans la vie. Il faut oser demander pour recevoir. Jésus dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et là, j'ai reçu mon Audi A5 intérieur cuir. Je l'ai posé sur ma bibliothèque. Elle est dans mon bureau. Je l'arrose tous les matins. Et peut-être qu'un jour, elle va grandir et devenir une vraie auto. J'ai beaucoup aimé l'humour de ce conseil d'église qui a su entrer dans ce faux rêve, vous voyez, dans ce faux rêve. C'était le but de l'exercice, bien sûr, hein, ce n'était pas pour avoir une Audi A5, c'était pour dire, voilà, on a parfois des rêves, mais est-ce que ce sont des rêves qui ont un sens ? Est-ce que ce sont des rêves qui ont une véritable consistance ? Est-ce que Dieu veut véritablement entrer là-dedans ? Ou est-ce que Dieu a autre chose à nous dire ? Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble un premier texte dans Luc 15, depuis le verset 15. Vous connaissez le verset 25, pardon. Vous connaissez bien ce passage, c'est la fin du récit de la parabole des deux fils ou de la parabole du fils prodigue. Et c'est le moment où, après que le Père ait accepté, reçu son Fils et fait la fête, le Fils aîné revient des champs. Luc 15, verset 25. Son Fils aîné était au champ. Quant à son retour, il approcha de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors il se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier. Mais il répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. Alors le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Tout ce qui est à moi est à toi. Dieu a une richesse incroyable pour nous. Dieu a des rêves incroyables pour nous. Mais une des réalités, c'est que souvent nous sommes des fils aînés. Nous sommes des hommes, des femmes dans l'Église et nous nous ennuyons dans l'Église. Vous savez ça? On n'ose pas le dire aux autres, mais parfois à l'intérieur, c'est vrai. On s'ennuie dans l'Église, où on se considère comme des pauvres. On pense que les bénédictions, elles sont surtout pour les autres. On pense que la richesse, elle est surtout pour les autres. On s'ennuie dans l'Église. Et ça, c'est triste. Je pense même que c'est la pire chose qui puisse nous arriver, d'être malheureux dans l'Église, d'être triste dans l'Église. Il y a quelque temps, j'écrivais un mail à une collègue suite à différentes choses qu'on était en train de travailler, et puis je me plaignais de je ne sais plus quoi, et puis elle m'a répondu, et c'est surtout la réponse qui était intéressante, elle m'a répondu « Ah, Calimero est de sortie !» Ah, Calimero est de sortie. Et j'ai trouvé ça très bien. Cette petite phrase qui dit « Ah, voilà !» Le concept de celui qui se plaint toujours. Nous sommes parfois des fils du Seigneur Calimero. Nous nous plaignons. Nous pensons que les bénédictions sont plus vertes dans l'église d'à côté ou dans le cœur d'à côté. Et nous vivons comme des pauvres. Nous pensons connaître les choses importantes de Dieu, l'ABC de Dieu, le salut, la grâce, le pardon, la vie éternelle. Et nous oublions qu'après A, B, C, il y a encore D, E, F, G, H, I, I, K, L, M, N, hein, jusqu'à Z, hein, jusqu'à Z. Dieu est l'alpha et l'oméga. Ne nous arrêtons pas à A, B, C. Ne nous arrêtons pas à ce que nous pensons connaître, nous pensons savoir, nous pensons important d'avoir reçu. Tout ce qui est à moi, dit Dieu, est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Alors rapidement, et c'est notre premier rêve, nous partons dans un évangile de l'abondance, d'où l'Odia 5, n'est-ce pas? Ou la villa, ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas forcément cela que le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur est déstabilisant dans ses dons. Vous savez, j'ai vécu quelque chose d'assez fort dernièrement. Je devais partir en vacances, et je suis parti en vacances en Toscane pour écrire. Je devais écrire un livre de prière. Et puis, c'est pas facile de se propulser dans un livre. Et j'étais là et je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Et j'ai vraiment dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux véritablement que j'exprime, que je dise? Et le titre est venu très rapidement. Le titre était Prière d'espérance. Mais quelle espérance et quelle prière en lien avec ça. Et je ne voyais vraiment pas très bien comment entrer là-dedans. Et le temps des vacances approchait, donc le temps de l'écriture approchait pour moi aussi. Et voilà que le samedi matin, où on devait partir, il y a 4 semaines, le samedi matin, je tombe malade, gravement malade. Je suis hospitalisé au CHUV en urgence et je passe 4 jours au CHUV. Pas du tout prévu. Pas du tout prévu. Mon médecin que j'ai vu vendredi passé me dit, vous savez, M. Tsvalen, vous êtes passé tout près de la vie éternelle. Là, c'était vraiment pas loin du tout. Mais ces 4 jours au CHUV, tout frais payés par la Lamal, dans un hôtel, 4 étoiles, bien nourri, couché, soigné, impeccable, m'ont permis d'entrer dans la dimension de l'espérance de Dieu, le rêve de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est ouvert devant moi, il y a quelque chose qui a changé en moi. Le Seigneur m'a révélé tout à coup quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement fort, de sa personne, de sa présence, de sa tendresse, de la réalité de son être dans ma vie et autour de ma vie. Des choses beaucoup plus fortes que je ne les avais jamais ressenties. Ce n'était pas mon rêve d'aller au CHUV. C'était pas forcément le rêve de Dieu que j'y aille, mais le Seigneur savait que ce chemin-là était un chemin d'abondance pour moi et non pas un chemin où l'on se dessèche. Tellement important. Oser prendre le temps de l'arrêt, oser prendre le temps de la réflexion, oser prendre le temps du silence. Dans mon travail, j'ai la chance de donner quelques cours à la Factory, vous connaissez probablement cette école de leadership. Et dans cette école, j'ai accompagné entre autres une jeune fille que je connais depuis sa naissance et qui a 19 ans maintenant. Et puis là, après son bac, elle a voulu prendre une année pour s'arrêter. Une année pour réfléchir à qui est Dieu, à son implication dans sa vie, à ce qu'elle voulait faire de sa vie. Entrer dans le rêve de Dieu, découvrir ce rêve. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Et cette jeune fille a vécu une vraie transformation personnelle, non pas à cause de la qualité des cours de la Factory, je ne pense pas que ça ait grand-chose à voir, mais par rapport à cette décision qu'elle a prise dans sa vie et que le Seigneur a pu véritablement valider, prendre en compte, prendre du temps pour Dieu dans la vie, une année, pour réfléchir à ce que je veux faire, à ce que je veux être, à ce que le Seigneur veut me donner pour ma vie. Quelle chose extraordinaire, quelle chose extraordinaire. Et j'ai été personnellement vraiment béni par le témoignage de cette jeune. Et je me disais, voilà, nous, on est plus âgés, on ne peut pas forcément prendre du temps comme ça, s'arrêter pendant une année, faire un break. Mais il y a des manières de le faire. À la Ligue, on a édité un petit livre qui s'appelle La traversée de la Bible, et qui vous permet pendant une année de traverser la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et de découvrir au travers du texte biblique une façon, un aspect ou plusieurs aspects de la volonté de Dieu, de la bénédiction de Dieu, des richesses de Dieu pour votre vie. C'est une manière de s'arrêter. C'est une manière d'honorer, je crois, le Seigneur, d'oser véritablement prendre le temps de l'arrêt. C'est aussi le cas avec, si vous avez moins de temps encore, avec Saveur, qui permet aussi d'entrer dans des temps de méditation tous les jours, où on s'arrête, où on n'est pas dans l'action. Vous savez, parfois, la lecture de la Bible, c'est une autre forme d'être actif. On fait des choses, il faut savoir, il faut avancer, il faut lire le commentaire, il faut prier, on n'a pas le temps, il y a le stress, etc. S'arrêter, prendre le temps de la méditation, prendre le temps d'être dans le cœur à cœur avec Dieu. Et alors Dieu peut nous parler et Dieu peut nous révéler quelque chose de son rêve pour nous. Dans cette parabole du fils prodigue, il y a un autre aspect tellement important du rêve de Dieu, c'est le rêve de la réconciliation. De la réconciliation, le rêve du pardon. Et là, je ne parle pas seulement du pardon des péchés que l'on reçoit au moment de la conversion, mais parfois de ces pardons qu'on ne s'accorde pas entre nous. Ça peut être vrai dans l'Église. De ces pardons que l'on ne s'accorde pas, de ces divergences qui sont là, de ces rancunes qui sont là, de ces blessures qui restent. Il y a plusieurs années, dans un voyage en Irlande, il y avait des grandes affiches au bord de la route. réconciliez-vous. Et ces grandes affiches étaient, c'était une campagne d'affichage qui était faite par l'Église catholique. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'était chaque fois des témoignages. C'était un grand-père, par exemple, qui disait « J'étais en colère, j'étais fâché contre mon frère. » Vous savez, il y a eu la guerre civile en Irlande. Il y a toutes ces blessures qui sont là, très fortes. Et le Seigneur Jésus m'a appris à me réconcilier. Il y avait des jeunes qui parlaient de cette réconciliation. Il y avait toutes sortes de témoignages. Et chaque fois, c'était l'œuvre de Christ qui était mise en avant. Et ça m'a tellement impressionné. Et je me suis dit, voilà un pays, voilà une communauté qui promeut la réconciliation, se pardonner les uns les autres. Je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas faire cela dans l'Église aussi ? Est-ce que ce n'est pas le rêve de Dieu que dans l'Église, la réconciliation devienne une réalité, pas seulement un dogme, pas seulement un concept spirituel, mais une réalité, qu'on puisse se pardonner les uns les autres, qu'on puisse se pardonner entre communautés, entre mouvements ecclésiastiques différents, qu'on puisse aussi se pardonner à soi-même. Je me rappelle, il y a plusieurs années, une dame âgée vient vers moi, c'était dans le cadre d'un séminaire. Elle vient vers moi, elle avait passé 80 ans. Et c'est une femme que je connaissais depuis très longtemps et qui était toujours silencieuse et en colère. On voyait cette femme, elle était tendue, tout le temps tendue comme ça. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en elle ? Quelle est cette souffrance ? Quelle est cette souffrance ? Et cette personne vient et elle me dit, j'aimerais avoir un entretien avec vous et votre épouse. Et on lui dit, oui, bien sûr. Et elle a commencé de nous parler. Et elle nous raconte que quand elle était enfant, son père l'avait envoyée au kiosque pour acheter quelque chose, je ne sais pas, le journal ou un petit truc. Et pendant que la vendeuse du kiosque allait chercher le produit, eh bien, la petite fille avait des pièces de 4 sous qui traînaient sur le comptoir là. Elle en a pris une et elle l'a mise dans sa poche. 4 sous. Et elle est rentrée à la maison. Et le dimanche, il y a eu une prédication à l'école du dimanche, voyez, sur la rectitude de vie, etc. Et elle a entendu cette voix en elle, « Tu es une voleuse. Tu es une voleuse. » Et cet enfant, cette adolescente, cette femme âgée, a passé toute sa vie avec cette voix en elle qui lui disait « voleuse, voleuse, voleuse ». Et sa vie a été brisée et cassée. Et elle nous donnait ce témoignage. Et ma première réaction était de dire « mais tu rigoles ou bien c'est juste 4 sous ». Et je me suis rendu compte, heureusement le Seigneur m'a soufflé, c'est une attaque de l'ennemi. Il la tient avec 4 sous. Et le rêve de Dieu pour cette femme, c'est qu'elle soit libérée, c'est qu'elle soit pardonnée. Et cette femme a vécu cette libération-là. Et depuis, je continue de la voir. Et c'est une femme transformée. C'est une femme qui s'est redressée. C'est une femme qui a appris à sourire, à rire, à encourager les autres. Elle est libérée de ses 4 misérables sous. Avec quoi est-ce que Satan nous tient ? Avec quelle culpabilité ? Le rêve de Dieu, c'est que nous soyons libérés. C'est que nous soyons des hommes et des femmes libres, qui pouvons nous tenir droit dans la vie, heureux devant lui, parce que nous sommes purifiés par le sang de Jésus, parce que Dieu nous a accueillis comme des enfants bien-aimés, nous a pris dans ses bras et nous a dit « Quoi que tu aies fait, je t'aime depuis toujours et pour toujours. » Ça, c'est le rêve de Dieu, que nous puissions entendre cela et non seulement l'entendre, non seulement le savoir, mais l'accepter et vivre cette réalité-là. Est-ce que nous savons que Dieu nous aime depuis toujours et pour toujours. Et puis, il y a encore un rêve que j'aimerais partager avec vous, qui est le rêve, je crois, du silence. Vous savez, Dieu est un Dieu qui aime la tranquillité et le silence. Et j'aime beaucoup ce texte d'Élie à l'Horeb. Vous connaissez ce texte, hein, quand il va dans le désert et qu'il veut rencontrer Dieu. Et il y a le tonnerre qui vient, il y a le tremblement de terre qui vient, il y a tout ça qui vient. Et puis Dieu n'est pas là. Et tout à coup, il y a ce silence doux et léger. Ce temps de l'abandon, ce temps où l'on ose s'arrêter devant Dieu et le laisser nous parler, tout doucement, nous dire ce qui est important, ce qui est fondamental pour nos vies. Vous savez, quand des parents ont un bébé, tout petit bébé, ils ne crient pas dessus quand ils veulent lui dire quelque chose. Hein. Ils le prennent dans les bras, ils le serrent tout près de leur cœur, et là, ils lui murmurent ce qui est important, ce qu'ils ont dans leur cœur à eux. Ils lui disent son amour, ils lui disent qu'il est beau, ils lui disent qu'il est important, ils lui disent qu'il ne doit pas pleurer la nuit pour qu'il puisse dormir. Voilà. Ils lui disent, ils lui parlent. Et Dieu aime nous parler comme cela, dans ses cœurs à cœur. En Toscane, parce que je suis parti en Toscane après avoir été au CHUV, en Toscane, j'ai passé une journée entière dans un face-à-face avec Dieu que je n'avais plus vécu depuis des années. Dieu était là, tellement proche, tellement présent. Ce n'était pas seulement quelque chose que je savais, c'était quelque chose que je vivais. Ce rêve incroyable, Dieu est là. Et je sentais sa présence, elle était presque palpable, presque physique. Dieu qui nous parle en toute liberté et avec tant d'amour, tant de tendresse, tant de sollicitude. Dieu qui nous dit les choses qui sont importantes pour nous, pas pour notre voisin, pour nous. Dieu a tant de choses à nous dire. Et Dieu a un avenir pour nous, un avenir merveilleux. Et peut-être que, je ne sais pas comment vous voyez votre avenir. Je ne sais pas ce que vous pensez quand vous pensez au futur. Quand on est jeune, le futur, c'est cool, parce que tout est à créer, tout est à inventer, tout est à découvrir encore. À part si on habite en Espagne ou en Italie ou dans des pays où il n'y a pas vraiment d'avenir. Mais chez nous, voilà, on a de l'avenir. Quand on est plus âgé, à quoi est-ce qu'on pense ? L'avenir devient plus court, devient plus incertain. Devient plus éphémère, peut-être même. Apocalypse 21, le rêve de Dieu. On touche là à quelque chose d'essentiel. Alors je vis un ciel nouveau. C'est Jean qui parle. Hein. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Dieu crée des choses neuves dans nos vies, personnelles, familiales, vie d'église. Dieu crée des choses neuves. Le premier ciel, la première terre ont disparu, la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, ils seront ses peuples. » Et lui sera le Dieu qui est avec eux. Est-ce que Dieu est le Dieu qui est avec moi ? Est-ce que je peux le dire au fond de mon cœur ce matin ? Est-ce que je peux dire de toute ma force, de toute ma pensée, de toute mon espérance, de toute ma foi, Dieu est le Dieu qui est avec moi ? Quelles que soient les circonstances, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Écris ces paroles qui sont certaines et véridiques. C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage et je serai son Dieu et lui sera mon fils. » C'est ça le rêve de Dieu, que nous soyons ses enfants au sens le plus profond, au sens le plus noble, au sens le plus riche du terme. Que nous soyons ses enfants, que nous vivions avec lui, que nous vivions de la vie qu'il veut nous confier, qu'il veut nous ouvrir, une vie d'une abondance, d'une richesse et d'une espérance incomparable. La vie de Dieu pour nous. Je vous ai préparé quelques petites feuilles qui sont ici sur la table. Sur ces petites feuilles, c'est marqué « Le rêve de Dieu pour moi, je désire qu'il devienne réel dans ma vie. » Je vous invite dans un dernier temps de ce culte pour terminer ce moment, peut-être pour le rendre concret, parce qu'un rêve doit être concret à un moment donné, d'entrer dans un temps de silence. Et puis ces petites feuilles, elles sont là, elles n'ont pas de valeur particulière, il y a une boîte avec des crayons. Peut-être que pendant ce moment de réflexion, pendant ce culte, le Seigneur a mis quelque chose dans votre esprit, quelque chose où il vous a dit, ça c'est une partie du rêve que j'ai pour toi. J'aimerais que tu y entres, j'aimerais que tu le reçoives, j'aimerais que tu le vives. Alors si c'est le cas, pourquoi pas venir chercher une feuille, écrire simplement comme ça, pour laisser une trace, pour inscrire ce rêve dans la réalité de votre vie, pour qu'il ne reste pas ici dans la salle de culte et vous rentrez à la maison et le rêve et vous êtes de nouveau dissociés, mais pour que le rêve de Dieu reste partie prenante, réelle de votre vie. Il n'y a rien de magique dans ce geste-là, c'est juste un petit moyen d'entrer véritablement dans le concret. Alors je vous invite vraiment à entrer dans le silence. Pendant quelques instants, je vais prier d'abord et puis ensuite nous allons simplement rester dans le silence. Et ceux qui désirent, vous pouvez venir prendre une feuille, écrire quelque chose ici ou à votre place, c'est égal, pour concrétiser ce rêve que Dieu vous a peut-être murmuré, soufflé à votre esprit, à votre cœur. Père, nous voulons te remercier ce matin parce que la vision que tu as pour nous est beaucoup plus grande que ce que nous pouvons imaginer et penser. Quand tu parles de pardon, quand tu parles de vie, quand tu parles d'espérance, ces mots ont une dimension beaucoup plus vaste, beaucoup plus forte, beaucoup plus belle que quand c'est nous qui les prononçons. Père, nous avons vraiment besoin de passer de nos rêves à tes rêves, de passer de notre vie à ta vie. Nous avons besoin, Père, que ton espérance devienne la nôtre. Nous avons besoin peut-être que ta consolation devienne notre consolation. Nous avons besoin peut-être de recevoir ces pardons que tu nous accordes pour que nous puissions les accorder à d'autres. Tu nous connais, Seigneur. Personne fait exception. Personne est à côté de tes rêves. Nous sommes tous concernés. Tu as des projets pour chacun d'entre nous ce matin. Et tu veux nous les souffler dans notre cœur maintenant, par ton esprit. Donne-nous, Seigneur, d'oser entrer dans ce temps de silence, dans ce temps de cœur à cœur et de face à face avec toi. Amen. Amen.